السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عفوا. فحياكم الله وبياكم مرة أخرى، ومرحبا بكم، وما زلنا مع كتاب الصلاة، وبالضبط في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وقبل هذا لا أنسى، avant cela, je n'oublierai pas de dire que nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, mercredi 26 Muharram 1428 dans le calendrier musulman, et le 14 février 2007 dans le calendrier chrétien. Donc on va, comme d'abord, comme tous les jours, un peu réviser. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, allez voir le nouveau d'aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jalla. Et comme c'est dans la salat, bien sûr, c'est très important. Je disais que, naam, ce qu'on a dit la fois passée, le plus important à retenir, c'est qu'on avait parlé de la sutra, l'obstacle, et que personne ne pouvait faire la salat s'il ne prenait pas un obstacle qu'il mettait devant lui. Naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fais la prière qu'en face d'un obstacle. Bien sûr, sauf si la personne ne trouve pas. La personne qui est en plein désert et n'a pas trouvé ni un bâton, ni un petit rocher, un caillou assez grand, ni rien. Celui-là, bien sûr, il est excusé. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais quiconque trouve un obstacle, il doit mettre un obstacle. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tusalli illa ila sutra. Je ne fais la prière qu'en face d'un obstacle. Un muhim. Des règles de l'obstacle que l'obstacle doit être au moins d'un demi-mètre de hauteur, 47 cm et quelques, presque un demi-mètre de hauteur. Non. Et ce n'est pas obligé qu'il soit large. L'essentiel c'est quoi? C'est la hauteur. Non. Maintenant, même s'il est mince, il n'est pas large, ça ne fait rien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois planter une lance dans le sol et la prenait comme obstacle. Donc il n'y a pas de problème si elle n'est pas large. L'essentiel c'est qu'elle soit assez haute. Cheikh Al-Albani Rahmo a dit, au moins si on ne trouve pas, on prend quelque chose au moins qui a un empan ou bien deux empans. Chibre ou chibran, au moins. Naam. Autre chose, naam. Quand on se met en face de l'obstacle, quand on est debout, on doit être loin de l'obstacle de 1,5 mètre. 1,5 mètre loin de l'obstacle quand on est debout. Et quand on se prosterne, on ne doit pas coller sa tête avec l'obstacle, mais on doit laisser entre nous et l'obstacle pour que un mouton puisse passer. C'est-à-dire, comme on dit les ulama, deux empans à peu près. Deux empans, on laisse entre nous notre tête et notre obstacle quand on est prosterné. Ensuite, autre chose, il y a un hadith qui est faible, qui dit que par exemple quand tu es dans le désert ou là, si tu ne trouves pas d'obstacle, tu fais un trait avec ta main. Ce trait, tu le traces, un trait avec ta main, et ce trait c'est l'obstacle. Ce hadith est faible, comme ont dit les ulama. Ils ont dit, le hadith du trait, c'est une croix sur lui. Hadith al-khat, khatta alayh, naam. Donc le hadith du trait, le trait qu'on dessine, n'est pas un hadith authentique. C'est pour ça que Si on ne trouve pas, on ne dessine pas. Si on ne trouve pas, Allah ghalib. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Naam, autre chose, naam. Si quelqu'un veut passer entre nous et l'obstacle, on ne doit pas le laisser passer. Naam. On doit au maximum le pousser. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqatilhu. Naam, faqatilhu. Et on le pousse avec une certaine violence pour que il ne passe pas. Ça, c'est la troisième fois. La première fois, on le pousse assez normalement. La deuxième, un peu plus. La troisième, on le pousse comme ça avec violence pour qu'il ne passe pas. Naam. Autre chose, si maintenant quelque chose passe entre nous et l'obstacle, on voit quelle est la chose qui est passée. Normalement, on ne laisse rien passer entre nous et l'obstacle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était en train de faire la prière, il y a un mouton qui a voulu passer. Un mouton, le mouton, vous savez que il n'est pas souillé, il n'est pas najis. Et le mouton, il a cette particularité que tu peux faire la prière dans un endroit où dorment les moutons. Et tu ne peux pas faire la prière dans un endroit où dorment les chameaux. Car le mouton, comme vous savez, le prophète alayhi salam a dit, inna min dawabil jannah. Ce sont des bestiaux, des animaux du paradis. Non, le mouton est l'un des animaux du paradis. Nous, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme animaux dans le paradis. Mais alhamdoulilah, tu as un hadith qui te dit que le mouton est l'un des animaux du paradis. Mashallah. Donc le mouton a essayé de passer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'obstacle, le mur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris comme obstacle le mur, un mur. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est vite précipité et a collé quoi? A collé sa poitrine contre le mur. Et comme ça, le mouton est passé par derrière le dos, le beau dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas dire ça, c'est un mouton ou c'est une poule. C'est une poule, je la laisse passer. Ou là c'est une vache. On ne laisse rien passer entre nous et la sutra. Naam. C'est pour ça que on va essayer premièrement de ne laisser rien passer entre nous et l'obstacle. Maintenant, si une chose est passée, on va voir quelle est cette chose. Si c'est une femme, ça veut dire pubère. Ce n'est pas une fille, c'est une femme. Là, c'est des pubères. Ou bien, c'est un chien noir, pas un chien blanc, pas un chien marron, ou que ce soit un chien noir, ou bien un âne. Si c'est une de ces trois choses, une femme pubère, un chien noir ou un âne, notre salat a été annulée. On doit refaire la salat de nouveau. On dit Allahu Akbar et on recommence. Si c'est autre chose à part ces trois, et c'est toi qui l'as laissé passer, il te prend la moitié de ta salat. Comme dans le hadith sahih d'Abdullah ibn Saoud, radiallahu ta'ala anhu, que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est un hadith authentique ou bien bon, hasan. Je l'ai lu, ça fait 10 ou 15 ans, j'ai oublié maintenant, il n'est pas devant moi, pour me rappeler s'il est authentique ou s'il est bon. Et dans les deux cas, on se bat sur ce hadith. Où il a dit que, si tu laisses aller passer quelque chose entre toi et l'obstacle, elle te prenait la moitié de ta salat. Naam. Donc pour ceux qui croient que on peut laisser passer un enfant, là, ils se trompent. Si tu laisses passer un enfant entre toi et ton obstacle, tu le laisses, c'est pas que tu étais discret ou là il est passé. Toi tu l'as laissé passer, tu le vois passer, tu le laisses. Il te prend la moitié de ta salade. Naam. Autre chose dans l'obstacle, c'est que il faut faire la différence entre par exemple la femme. On a dit que la femme, si elle passait, elle annulait la salade. Il faut faire la différence entre une femme qui passe et une femme qui est en face de toi. Naam. Une femme qui est en face de toi et tu fais la prière, tu la prends comme sutra. Tu prends la femme comme obstacle, ce n'est pas interdit. Naam. Mais c'est interdit si qu'elle passe. Il y a une différence entre passer et être là en face de toi assise ou là en train de dormir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait des fois le lit, mettait un lit comme obstacle et il faisait la prière face au lit. Et sur le lit, il y avait qui? Il y avait Aïcha radiyallahu ta'ala anha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, notre belle-mère, Sharifa. Tahira, la pure. Elle était sur le lit, il la prenait comme obstacle. Pourquoi on dit cela? Peut-être quelqu'un, il va pas comprendre, il va avoir des ambiguïtés, il va dire, subhanallah, la femme annule la salat si elle passe. On lui dit, naam, mais elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Elle était en face de lui, et il faisait la prière en face d'elle. C'est comme si une femme est en face de moi je fais la prière. Tant qu'elle ne passe pas, elle ne coupe pas. Pourquoi? Elle est en face de moi, elle est là, elle est stagnée. Naam. C'est ce que je voulais dire, ce qu'on avait dit aussi sur l'obstacle. Je ne sais pas si on avait dit autre chose sur l'obstacle, que j'ai oublié, je ne sais pas. De toute façon, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, ou là une question, je la poserai, inshallah ta'ala, quand je donne la parole aux questions. Maintenant, at-takbir, naam. Le fait de dire Allahu Akbar. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم commence la prière en disant الله est le plus grand. الله أكبر. Remarquez ici, on ne peut commencer la salat qu'en disant الله أكبر. On ne peut pas dire quelque chose qui ressemble à cette phrase. Par exemple, Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu Amjad. On ne peut pas dire. Il faut qu'on dise Allahu Akbar. Et on sort de la salat en disant Assalamu alaikum. Naam, si tu dis toute autre chose qui n'est pas Assalamu alaikum, tu ne peux pas sortir de la salat. Si tu dis par exemple Allahu Akbar, ou bien tu veux dire Allahumma salli ala Rasulillah, tout ça, ce n'est pas la salat. La salat, c'est quelque chose qui commence par Allahu Akbar, qui se termine par Assalamu alaikum. Naam, il y a différentes sortes. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a beaucoup aussi d'autres sortes. Naam, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahu la tatimmu salatun li ahadin min al-nas hatta yatawadda'a. فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله اكبر. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, en vérité, la prière d'une personne n'est pas complète tant qu'il n'ait pas fait l'ablution, dans lequel il y est inclus les parties nécessaires du corps, et dit alors الله اكبر. Hadith sahih. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. Le prophète a dit la clé de la prière est la purification. Quelqu'un qui ne fait pas les ablutions et qui n'a pas d'ablution, il ne peut pas rentrer dans la prière. Pourquoi? Il n'a pas la clé. Une maison, tu n'as pas la clé. La voiture, tu n'as pas la clé. Tu ne peux pas y accéder. La prière, pour y accéder, il faut avoir la clé. La clé, c'est quoi? C'est les ablutions. La clé de la prière est la purification. On y rentre par le takbir. Naam. Si tu veux rentrer, tu dois dire quoi? Tu dois dire Allahu Akbar. Et on sort par le taslim. On sort en disant Assalamu alaikum. Hadith rawa Abu Dawud, Tirmidhi, Al-Hakim. Et c'est un hadith sahih. Tayyib. Cheikh Al-Albani, rahmatullah, dit, yani une petite remarque, on va y dire, le hadith contient une indication qu'il, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne commencez pas la prière avec les mots de certains gens qui disaient par exemple j'ai l'intention de prier, etc., qui est unanimement considéré comme une bid'a, une innovation. Naam. Le fait de dire avant de dire Allahu Akbar, le fait de dire par exemple j'ai l'intention de prier Salat al-Dhuhr, on dit comme ça à haute voix, j'ai l'intention, ou là tu dis taqabbal minni Salat al-Dhuhr, Allah accepte de moi Salat al-Dhuhr 4 rak'at, yani ma'moum ou bien imam, qada'an ou la ada'an, tout ça, ça rentre dans la bid'a, bi'idnaha azzawajal. Tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas, ni lui ni les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout, il disait, la tertalifu, dans un hadith, qulubukum. Ensuite, il disait Allahu Akbar, il rentrait dans la salat. Donc, on ne dit pas. L'intention, ça se trouve dans notre cœur. L'intention, on ne la dit pas. On ne dit pas Ya Allah, accepte de moi Salat Allah ou la Salat Al-As, n'importe quoi. Et, Cheikh Mashhour Hussein, Hafidahullah, Cheikh Afwan Hassan, Cheikh Mashhour Hassan Salman, Hafidahullah, a dit dans son livre, Le Qawlul Mubin, Fi Akhta'i Al-Musallin, il a dit, الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء المسلمين. Il a dit, le fait de dire l'intention à voix haute n'est ni obligatoire ni conseillé, avec l'unanimité des ulamas. Tous les ulamas sont unanimes pour dire que yani le fait de dire à haute voix l'intention, c'est quoi? C'est ni conseillé ni obligatoire. بل الجاهل بالنية مبتدع مخالف للشريعة. Pire que cela, celui qui dit l'intention à haute voix est un innovateur, quelqu'un qui a transgressé la sharia, la législation. نعم. وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضل يستحق التعذيب. Et maintenant, s'il fait cela, yani, il fait cette chose croyant que c'est de la sharia, croyant que c'est Allah qui a dit ça, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est un ignorant égaré. Celui-là, c'est un ignorant égaré. Istahiq al-ta'zir, yani, le gouverneur peut l'appeler et lui dire, attention, taqillah, arrête de faire les bidats, sinon tu risques d'être fouetté, tu risques d'être emprisonné, tu risques des choses. Arrête de faire des bidats dans le din. Naam. Il a dit, wa illa fal uquba ala dhalika idha asarra alayhi ba'da at-ta'rif al-bayan lahu. Il a dit, maintenant, s'il insiste et il continue, le gouverneur a le droit de lui faire une sanction, naam, ou un châtiment, uquba, naam. Il doit le faire, il a le droit de lui faire une contravention, disons. Pourquoi? Parce que maintenant, naam, laisse-le, inshallah ta'ala. Je disais, maintenant qu'on lui a appris et il continue, il insiste, celui-là, le gouverneur, peut lui faire une uruba, une contravention. Naam. Maintenant, il a cité beaucoup de dalils que ça ne se disait pas. Ensuite, il a dit, Cheikh Mushur Hafidahullah a dit, Qala Ibn al-Juzay. Ibn al-Juzay a dit, Ibn al-Juzay, il faut bien faire la différence entre trois ulama. Naam, trois grands ulama. Ibn al-Qayyim Jawziya et Ibn al-Juzay et Ibn al-Juzay. Ibn al-Juzay. Naam. Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il est très connu. C'est l'un des plus proches de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Naam. Celui-là s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawziya. C'est quoi Ibn al-Qayyim al-Jawziya? Qayyim, c'est le directeur, disons le proviseur, celui qui gère. On appelle Qayyim. Ummu Mihjan, vous connaissez Ummu Mihjan? C'est une femme, je vous raconterai un jour, inshallah ta'ala, son histoire. Radiallahu ta'ala, une compagnonne, sahabiya radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'elle avait la particularité de quoi? D'habiter dans la mosquée. Elle habitait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu une histoire très drôle avec un oiseau. Un oiseau. Rappelez-moi un jour, inshallah, je vous raconterai son histoire. Elle est dans le Bukhari, avec un pigeon, une sorte de pigeon, ça s'appelle l'Hada'a. Un genre d'aigle. Elle avait une histoire, elle avait une grande histoire avec un pigeon comme ça, un oiseau, et qui a été la cause pour qu'elle soit devenue musulmane. Al-Muhim, elle habitait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé après elle, on lui a dit, elle est morte hier, la nuit, et on l'a, quoi, on l'a enterrée la nuit. Il est parti sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière sur elle, sur sa tombe, dans le cimetière. Al-Muhim, qu'est-ce qu'elle faisait? Taqummu al-masjid. Donc elle gérait la mosquée. Elle lavait yani, la mosquée, essuyait, balayait, etc. Ça on dit taqummu. Donc yaqummu ça Ibn Qayyim. Qayyim ça veut dire celui qui gère. Donc Ibn Qayyim, Jawziya, avait quoi? Avait un père qui était directeur. C'était le Qayyim. Le Qayyim, il était directeur de quoi? De Jawziya. Jawziya, c'est une école. Naam. Une école qui s'appelait Jawziya. Donc, celui-là, comment on l'appelait? Il s'appelle Abu Bakr. Comment on l'appelait? Ibn, le fils de Qayyim, du directeur de Jawziya. De l'école qui s'appelait Jawziya. Naam. Le fils de l'école de Jawziya. C'est ça, Ibn Qayyim Jawziya. Il y a un autre qui s'appelle Ibn al-Juzay. C'est un autre. Un grand alim aussi, Hanbali. Il s'appelle Ibn al-Juzay. C'est de lui que je vais parler maintenant. Je vais lire quelque chose que Ibn al-Juzay a dit. Ce n'est pas Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Et il y a un troisième qui s'appelle Ibn al-Juzay. Ibn al-Juzay, c'est un maliki, un grand al-malikite. Malikite, il a un livre qui s'appelle Al-Qawanin al-Fiqhiyya. Donc il ne faut pas confondre entre ces trois. Maintenant, on parle du deuxième, qui s'appelle Ibn Juzay. Ce n'est pas Ibn Qayyim al-Juzay, c'est Ibn Juzay. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a un livre très réputé qui s'appelle Tilbis Iblis. Il s'appelle Les ruses de Satan. Tilbis Iblis. Il a dit, وَمِنْ ذَلِكَ va parler de certaines ruses du shaitan. وَمِنْ ذَلِكَ تَلْبِسُهُ عَلِيْهِمْ فِي نِيَتْ صَلَاتْ. Et parmi ces ruses, il y a les ruses qu'il fait dans l'intention de la salat. Il a dit d'autres ruses concernent l'intention de la prière. نعم. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ أُصَلِّي صَلَاتَ كَذَا ثُمَّ يُعِيدُ. نعم. ثُمَّ يُعِيدُ هَذَا ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَذَ النِّيَّةِ وَالنِّيَّةُ لَتُنْقَذْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ. Donc que fait le shaitan parmi l'une de ses ruses? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit certaines personnes disent je prie telle prière, puis il recommence en pensant qu'il a annulé son intention. Il a dit alors que l'intention ne s'annule pas. L'intention ne peut pas s'annuler, c'est quelque chose dans le cœur, même s'il n'a pas été satisfait de son expression. Non. Certains disent je prie salat ad-dhohr, ensuite il arrête, il dit j'ai pas bien dit ad-dhohr, ou j'ai pas bien prononcé le mot salat, ou bien j'ai dit dhohro, ou bien j'ai dit dhara, ou bien j'ai dit non, alors je recommence la salat. Non. Et le shaitan, ça lui plaît beaucoup qu'il te fasse recommencer la salat 5, 6, 7, 8, 10 fois. Non. Ensuite il y a dit non. وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَنْقُضُ ثم يكبر ثم ينقض فإذا ركع الإمام كبر الموسوس وركع معه فليت شعري ما الذي أحضر النية حينئذ. نعم. Il y a dit il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Il y a d'autres qui disent Allahu Akbar, puis il s'interrompt, il dit non, j'ai pas bien dit. Ensuite il dit Allahu Akbar, ensuite il s'interrompt, il dit j'ai pas bien dit Allahu Akbar. نعم. J'ai hésité, ou là j'ai dit Allahu Akbar. Là j'ai dit Allahu Akbar. Non, je répète, c'est pas juste, je répète la salat. Non. Puis il commence Allahu Akbar, ensuite il annule, il dit non, je l'annule, je recommence. Et comme ça, et quand l'imam s'incline, il s'incline avec lui. Ibn Juzay a dit, subhanallah, pourquoi depuis tout à l'heure il essaye de dire Allahu Akbar, il dit je ne l'ai pas dit juste, il a recommencé, et maintenant quand l'imam s'est incliné, il s'est incliné avec lui. Pourquoi tu t'inclines puisque tu dis que c'est faux ce que tu es en train de faire? Donc je vois pas pourquoi tu t'inclines. Il a dit ici. Ensuite, il a dit aussi beaucoup d'autres choses. Je me suis fait à cela pour dire que le shaitan a beaucoup de ruses. Il commence par le wudu et il termine par la salat. Non, surtout dans le wudu. Surtout dans le wudu. Le shaitan a beaucoup de ruses dans le wudu. D'ailleurs, certaines personnes, il passe une ou deux heures en train de faire les ablutions. Naam. Certaines personnes, toutes les cinq minutes, ils se disent non, je crois que je ne l'ai pas bien fait le wudu, je refais. Certaines personnes font 5-6 fois la main, 3-4 fois, 5-6 fois le visage, et comme ça. Ensuite, ils se disent non, peut-être j'ai fait seulement deux, peut-être j'ai fait, et comme ça, ils recommencent. Il y avait même une personne vieux qu'on lisait, quand elle faisait le wudu, avant de commencer le wudu, elle prenait des bâtons d'allumettes. Quand elle met une fois, elle pose un bâton d'allumettes. Ensuite, elle met la deuxième, elle pose un bâton d'allumettes. Naam. Et il y avait une personne que je connaissais, Allah yarhamha, qui est morte. Elle ramenait ses enfants devant elle. Et elle leur disait, moi je fais le wudu et vous comptez. Et quand elle faisait une fois, elle passait l'eau, il disait 1, ensuite 2, 3, et il compte avec elle. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Allah yarhamha, elle était très sincère, mashallah, pratiquait beaucoup, mais regardez ce que le shaitan a fait d'elle. Naam, le wuswas, ça s'appelle le wuswas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait plus de 3 fois dans le wudu, faqad asa'a wa zalama. Subhanallah al-azim, quiconque fait plus de 3 fois, faqad asa'a. Il a fait quelque chose de mal, wa zalama. Subhanallah al-azim, et il a été injuste. Donc, dans le wudu, en faisant le wudu, tu peux être injuste et tu peux avoir des péchés. Naam. Tu sais pas que quand tu fais une seule fois, ça suffit. Tu sais pas que le wudu, une seule fois, l'obligatoire, c'est seulement une fois. Donc, maintenant, tu as des doutes. Combien j'ai fait? 3, 2, 4, 5, je ne sais pas. Classe. ta main est mouillée, ça veut dire que tu as fait au moins une fois. Et donc, au moins une fois suffit. Suffis-toi une fois, ma'alish. Une fois, c'est mieux que quatre fois. Une fois, tu as fait l'obligatoire. Quatre fois, tu as fait l'interdit. Sauf quand tu fais une seule fois. Alhamdoulilah, tu as fait l'obligatoire. Allah Ta'ala est ravi de toi. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et quand tu fais quatre ou cinq fois, tu as fait l'interdit. Tu es rentré dans les péchés. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par Allahu Akbar. Naam, Allahu Akbar. وكان يقول عفوا صحيح وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه رواه احمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وسكت عليه شيخ ناصر الدين عليه رحمه الله donc qu'est-ce qu'il faisait des fois il levait la voix pardon pour le takbir de sorte que ceux qui sont derrière lui puissent l'entendre. Donc maintenant, moi, quand je vais rentrer dans la prière, je dois dire « Allahu Akbar ». Maintenant, je regarde. Est-ce qu'il y a des gens derrière moi? Je vais les guider ou là, je suis seul? S'il y a des gens derrière moi, je suis obligé de lever la voix. Pourquoi? Pour qu'ils entendent que j'ai dit « Allahu Akbar », pour qu'ils disent « Allahu Akbar ». S'ils ne m'entendent pas, je vais dire « Allahu Akbar » en moi-même. Donc, ils ne vont pas rentrer dans la salat. Donc, je vais lever la voix. Ce n'est pas parce que c'est une sunna de lever la voix, mais à cause de faire entendre des gens qui sont derrière moi. Mais si je suis seul, je ne lève pas la voix. Je me le dis à moi-même, c'est tout. Je me fais entendre moi, je dis comme ça. Allahu Akbar. C'est tout. Je me fais entendre moi comme ça. Allahu Akbar. Ça me suffit. L'essentiel, ce n'est pas de lever la voix. L'essentiel, c'est de dire Allahu Akbar. Est-ce que tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Et bien sûr, quand je dis dire, ça veut dire ce n'est pas dire Allahu Akbar avec le cœur. Dire avec la langue et bouger les lèvres et te faire entendre. Te faire entendre que tu as dit Allahu Akbar. Certains ont un grand souhait dans le Allahu Akbar. Naam, avant de commencer, avant de dire Allahu Akbar, comme a dit Cheikh Ibn al-Qayyim rahmatullah, pas le deuxième, non, pas le premier. L'adepte de Cheikh l'Islam, Ibn Qayyim al-Jawziya. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit certains, avant de dire Allahu Akbar, ils se mettent comme ça debout, ensuite ils commencent à faire des mouvements, subhanallah. C'est comme s'il allait faire un combat karaté. Il commence à faire des mouvements avec ses mains, des mouvements avec son cou. Il commence à tourner son cou, de haut en bas, de droite à gauche. Il se prépare pour dire tout ça, il se prépare pour dire Allahu Akbar. Attention, il regarde à droite, à gauche. Attention, je vais dire Allahu Akbar. Et il commence à dire Allahu Akbar. Et des fois, il dit et il répète. Il dit non, c'est pas comme ça. Attends, je répète. Allahu Akbar. Et il crie comme ça, c'est comme si c'était djihad ou je ne sais pas quoi. Allahu Akbar. Tout ça, c'est de la bida. Tout ça, c'est de la bida. Non, pourquoi? Parce que le shaitan ne le laisse pas faire, ne le laisse pas dire Allahu Akbar normalement. Alors, miskin, il est dans le djihad. Miskin, avant, pour dire Allahu Akbar, miskin, il va suer. Il va prendre le mouchoir et essuyer yani, la sueur qui coule du front pour dire Allahu Akbar. Peut-être vous allez dire je suis en train d'exagérer, mais vous ne voyez pas ce que je vois. Non, je suis imam, je sais ce qui se passe dans la mosquée, je vois des choses exactement l'endroit où tu vas faire la prosternation. Non. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est rentré dans la Kaaba, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une fois la prière à l'intérieur de la Kaaba. Naam. Quand il a fait la prière à l'intérieur de la Kaaba, sa vue, sallallahu alayhi wa sallam, sa vue ne s'est pas éloignée de l'endroit de la prosternation jusqu'à ce qu'il a terminé la salat. Naam. Je répète, quand on fait la salat, à partir du moment où tu dis Allahu Akbar et tu commences à voir, à fixer l'endroit de la prosternation, tu lèves pas tes doigts, tu lèves pas tes yeux de l'endroit de la prosternation jusqu'à ce que tu dises Salam alaykum. Surtout quand tu lèves la tête, tu dis Sami Allah liman hamida. Faut pas regarder en face ni regarder en haut. Regardez toujours vers l'endroit où se prosterne jusqu'à ce que tu dises Salam alaykum. Il n'y a qu'une seule exception. Une seule exception, où tu ne dois pas regarder l'endroit de la prosternation, c'est quand? C'est lorsque tu fais le tashahhud, lorsque tu dis tahiyyatullah, zakiyyatullah, tayyibatulillah. Tu dois regarder ton doigt en train de bouger, ton doigt et non pas l'endroit de la prosternation. Sinon, tu ne dois jamais lever tes yeux de l'endroit de la prosternation. Wa kana yaqulu sallallahu alayhi wa sallam la yanbaghi la yanbaghi an yakuna fi al-bayt shay'un yushghilu al-musalli. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait, il ne convient pas qu'il y ait dans la maison une chose qui dérange la personne qui prie. On veut faire la prière, ce n'est pas on va la faire dans la chambre avec la télévision allumée, ou là, la télévision, il y a le match de football qui joue et moi je fais la prière. Non, je ne sais plus maintenant ce que je vais dire. Est-ce que je vais dire Allahu Akbar, ou là je vais dire il a tiré, ou là il a raté le pénalty, ou là il a frappé de la tête, ou là je ne sais plus ce que je vais dire. Non, tu dois éloigner toute chose qui va te déranger. On ne fait pas la prière avec l'année avec quelque chose qui est en train d'être préparé, qui est sur le feu. On ne sait pas, on va dire Allahu Akbar, ensuite je vais dire est-ce qu'elle a boue, elle est bouillée, elle n'a pas, est-ce que le feu est fort, il est faible, est-ce que ça s'est renversé, est-ce que ceci, est-ce que cela, ça s'est brûlé, ça s'est pas brûlé. C'est pas comme ça qu'on fait la prière. On doit d'abord se vider, se libérer pour se donner à fond à Allah subhanahu wa ta'ala et à la salah. Naam. Toute chose qui va nous déranger, on va prendre les précautions et les mesures pour l'éloigner avant de rentrer dans la salle. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yinha an raf'i al-basari ila as-sama', rawahu al-Bukhari wa Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait de lever les yeux vers le ciel. Naam. Il interdisait de lever les yeux vers le ciel. ويؤكد في النهي حتى قال لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وفي رواية أو لا تختفن أبصارهم رواه مسلم البخاري. سبحان الله العظيم. C'est grave. نعم. Il a insisté sur l'interdiction de lever les yeux dans la salat, au point où il a dit que les gens arrêtent de lever les yeux vers le ciel, vers le haut, dans la prière, ou bien leur vue ne leur reviendra plus. Il est possible que quelqu'un lève les yeux dans la prière et qu'il devienne aveugle dans la prière. Tellement c'est grave ici, c'est interdit. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti. Il a dit attention. Je vous dis, ne levez pas les yeux vers le ciel quand vous faites la prière. Et moi, je sais que beaucoup de gens lèvent les yeux quand ils disent Sami Allah liman hamida. Naam. Certains gens, quand ils disent Sami, yani, il est incliné, il va se lever pour dire Sami Allah liman hamida. Alors, il profite pour regarder en haut. Il y a certains gens qui lèvent les yeux vraiment, vraiment vers le haut. Ils disent Sami Allah liman hamida. C'est comme si, astaghfirullah, il voulait parler avec Allah. Allah qui est vers le haut, dans le ciel. Il lève les yeux vers le ciel lui dit, Sami Allah liman hamida, regarde en haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si jamais tu fais comme ça, et tu deviens aveugle, c'est ta faute. Moi, je t'ai montré qu'il ne fallait pas faire comme ça. Je t'ai montré que dans la prière, il fallait regarder seulement à l'endroit de la prosternation. Naam. Et dans un autre hadith, il a dit, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. حديث رواه الترمذي الحاكم صحيح. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un autre hadith, ainsi, quand vous priez, ne regardez pas ici et là. Quand on prie, on ne regarde pas à droite, à gauche, en haut, en bas. On regarde seulement en face, vers l'endroit où on doit se prosterner. Il faut avoir de l'humilité. Khushu'a. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Regardez Allah Ta'ala qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran. قد أفلح المؤمنون. On gagne ou là on triomphe ou là. Qui? Les croyants. C'est qui les croyants? Il va les montrer. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui sont humiliés dans la salat. Humiliés. C'est ce qu'il nous dit. Il est là, il est en train de fixer l'endroit de la prosternation. C'est tout. Il ne regarde pas à droite, à gauche. Celui qui regarde à droite, à gauche, et il regarde la montre, n'est pas humilié dans la salat. Donc Allah Ta'ala a dit, a gagné, a triomphé, il n'a pas dit celui qui fait la prière, il a dit celui qui est humilié dans la salat, celui qui est humilié dans la prière. Allah Ta'ala ne veut pas que tu fasses la prière avec un corps et ton cœur n'est pas là. Allah Ta'ala n'a pas besoin de ton corps, n'a pas besoin de ton corps, de tes bras, de ta tête, de tes yeux. Tu fais 1m70 ou 1m80, tu pèses 100 kilos, il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de ton cœur qui est humilié, qui se sent yani, petit devant Allah, faible, en train de dire subhanallah al-azim, subhanallah al-bihamdi, et qu'il et les doigts, les invocations. C'est ce que veut Allah Ta'ala de toi. Il veut que tu sois avec ton cœur surtout, et pas ton corps. Donc, il a dit, ainsi quand vous priez, ne regardez pas ici et là. Ne vois pas à droite, ne vois pas à gauche, ne vois pas ta montre. Ne vois pas en face de toi qu'est-ce qu'il y a à la télé, ne vois pas. Non. Reste, Inch'Allah Ta'ala, humilié. Pourquoi? Car Allah Ta'ala le sublime, a son visage en face du visage de son serviteur. Dans la prière, tant que le serviteur ne regarde pas dans une autre direction. Tirmidhi al-Hakim, hadith sahih. À partir du moment où tu dis Allahu Akbar, tu as cette faveur, Masha'Allah alik, que Allah Ta'ala a mis ton visage en face de ton visage. Et Allah Ta'ala laisse son visage en face de ton visage comme ça, près de toi, à condition que tu ne regardes pas dans une autre direction. Dès que tu te retournes un peu à droite, tu vois à droite, tu vois à gauche, Allah Ta'ala yani, ne te donne plus cette faveur. Il ne met plus son visage en face de ton visage. Non, quand tu fais la salat, n'oublie pas que le visage d'Allah est en face de ton visage. N'oublie pas cela, peut-être que ça t'aidera à être pudique envers Allah, avoir honte d'Allah et dire subhanallah, son visage est en face de mon visage. Comment yani, vais-je la faire vite? Et comment vais-je voir à droite et à gauche alors que Allah subhanahu wa ta'ala a mis son visage en face de mon visage? Bien sûr, ceux qui ne sont pas salafis vont dire comment ça? Comment Allah Ta'ala va mettre son visage? Ensuite, Allah Ta'ala s'il met son visage en face de mon visage, ça veut dire qu'il n'est pas sur le trône. On va dire, et toi, depuis quand tu dis que Allah est sur le trône? Toi, tu n'es pas un salafi, tu dis Allah est partout, il n'est pas sur le trône. Khlas, maintenant il est sur le trône. Masha'Allah, khlas, il est sur le trône. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert ton cœur, tu dis qu'il est au-dessus du trône, comme dit Al-Sunnah ou Jama'a. Mais pour être un vrai salafi, tu dois croire et attester que Allah Ta'ala n'est pas comme nous. Il ne nous ressemble pas, on ne lui ressemble pas. En tout, en son essence, en ses noms, en ses gestes, en ses actes, en ses attributs, il ne nous ressemble pas. Donc, Allah Ta'ala peut en même temps être au-dessus de son trône et en même temps être avec toi. C'est difficile pour Allah, l'omnipotent, Allah, l'omnipotent. C'est difficile pour Allah. Certains gens qui ont un cœur faible et beaucoup d'ignorance croient que Allah Ta'ala c'est comme nous, mais seulement quelque chose de grand, comme un géant, quelqu'un qui fait 500 mètres de hauteur, comme ça qu'il imagine Allah ou le je ne sais pas. Il dit c'est impossible, il est en même temps sur le trône, en même temps avec nous, et comment en même temps son visage est avec moi et avec X et avec Y et avec... Combien qu'il a de visage? Pourquoi ils disent tout cela? Parce que leurs cœurs sont malades. Ils ont imaginé Allah comme nous. Ça, moi je ne peux pas être en même temps ici au Koweït et mon visage il est avec toi. Je ne sais pas où, à Paris ou à Marseille. Je ne peux pas. Mais qui est-ce qui t'a dit d'imaginer Allah comme moi? Qui t'a dit que Allah est comme moi pour que tu fasses cette ressemblance et que tu dises à la fin c'est impossible? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu sais pas que je te donne un exemple très simple. Tu sais pas que maintenant, avec la caméra, moi je suis ici au Koweït et mon visage il est avec toi à Paris, à Marseille. Tu sais pas ça? Tu allumes la webcam, Ali, je suis en face de toi, alors que je suis pas en face de toi, je suis au Koweït. Mais mon visage est en face de toi, tu m'entends, c'est comme si j'étais collé à toi. Subhanallah. Hadi, avec la caméra, c'est devenu un rien. Tu dis à quelqu'un à la caméra, il rit. Tu dis ça, c'est dépassé. Alors, qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, Allah Ta'ala peut joindre entre les choses impossibles. N'est-il pas le premier et le dernier? est-ce quelqu'un peut joindre entre le premier et le dernier? Quelqu'un peut joindre en même temps être le batin ou le bahar? La même chose, Allah Ta'ala peut joindre entre des choses qui sont incompatibles pour nous, qui sont des contraires pour nous. Il peut être au-dessus du trône et avec toi. Naam, c'est très facile pour Allah. Très facile. Bon, ça c'était la aqida. Je reviens au fiqh. Je disais que tant que tu ne vois pas à gauche ou tu ne vois pas à droite, tant que tu as l'humilité, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi dans la salat. Je disais, surtout pourquoi? Surtout pour salat al-fard, l'obligatoire. Salat al-nafila, c'est plus ou moins. La nafila, on peut faire beaucoup de choses dans la nafila. J'ai cité ce qu'on peut faire et je vous citerai. Quand j'arriverai aussi à la nafila, je citerai bi'idhnillah ta'ala qu'est-ce qu'on peut faire dans la nafila. Naam. Au point où Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a dit que même dans la nafila, on peut même écrire. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou, il a dit dans la nafila, tu peux même tirer un stylo. Tu peux sortir un stylo de ta poche et tu notes quelque chose et tu la rends. Et tu es toujours dans la prière. Naam. Quelque chose de très important. Tu as peur d'oublier, tu la notes très vite et tu rends le stylo dans à sa place. Ça c'est la nafila. La nafila, beaucoup de choses sont permises dans la nafila. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا نعم هذا خلاص on l'a dit. Il a dit وَقَالَ أَيْضًا عَنْ الْإِتِفَاتِ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاتِ الْعَبْدِ رواه البخاري وابو داود. Le fait de regarder ici et là, le fait de regarder à droite et à gauche, c'est quoi ça? D'où ça vient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un moyen de dépossession par lequel le diable vous vole une partie de la salat. Subhanallah al-Azim. Le shaitan voudrait que tu ne fasses pas du tout la prière. Non, il voudrait s'il pouvait. Maintenant il ne peut pas. Toi tu fais la prière, mashallah. Alors maintenant il veut, par exemple, s'il peut, tu ne la fasses pas à l'heure. Non, il fait la prière du dhuhr, fais-la la nuit. Et la prière du asr, fais-la la nuit après l'isha. Et l'isha dort, tu es fatigué. Tu viens du travail, tu es fatigué. Laisse l'isha, tu la fais le matin. Et salat sobh. Dors, masha'Allah, dors. Fais-la à 10h du matin, salat sobh. Il veut qu'on fasse cela. Parce qu'il sait que si on fait des salats comme cela, non seulement elles ne sont pas acceptées, mais encore on a des péchés. On a de grands péchés. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين. Il y a un adab, un châtiment grand pour qui? Pour ceux qui font la prière. Pour le musallin, c'est pas ceux qui font pas la prière. Ceux qui font pas la prière, c'est pas la peine de parler d'eux, mais Allah Ta'ala dit il y a un grand adab, un grand châtiment pour ceux qui font la prière. Ya Allah, qui ceux-là, ceux qui font la prière? Il a dit الذين هم عن صلاتهم ساهون, ceux qui sont distraits dans leur prière, c'est-à-dire il fait salat al-dhuhr la nuit, il fait salat l'asr la nuit, il fait salat l'isha le matin, il fait salat l'sobh vers 10h du matin, et comme ça ceux-là, il y a un châtiment qui les attend en enfer. Alors entre parenthèses, qu'en est-il pour celui qui ne fait pas du tout la prière? Si quelqu'un meurt, il ne fait pas du tout la prière, il n'a aucune chance demain devant Allah d'être épargné, aucune. Très très grave pour lui. Car je viens de dire que c'est pas moi qui viens de dire, c'est Allah qui a dit. Car si celui qui fait la prière, il ne la fait pas à l'heure, il y a un grand châtiment qui l'attend. Alors qu'en est-il pour celui qui ne fait pas la prière, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah, et qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdulillah alladhi hadana li hada. On dit toujours Alhamdulillah. Remercie beaucoup Allah Ta'ala qui t'a guidé à faire la prière. Tu fais la prière. Allah Ta'ala a dit wa inna hada kabiratun illa 'ala al-khashi'in. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, la prière c'est quelque chose de difficile, et de grand, sauf pour quelqu'un qui a l'humilité, là, le khushu'. Quand tu n'as pas le khushu', c'est très difficile de faire la prière. Là, tu sens que c'est une montagne, comment je vais faire la prière? Surtout si tu joins les prières, je vais faire maintenant dhuhr, asr, maghrib, c'est très difficile. Mais si Allah Ta'ala a fait descendre la lumière dans ton cœur, naam, et la sérénité, la quiétude, il a raffermi ton cœur, alors là la prière va te paraître la chose la plus merveilleuse au monde. C'est un délice. Tu manges, tu es en train de manger les plus beaux fruits du monde. Naam, quand tu fais la prière, le prophète Hassan disait, il a dit, et dit l'histoire, je ne sais pas comment on appelle, la meilleure chose au monde qu'on peut mettre entre ses yeux, il a dit c'est la salat. Allah Ta'ala a mis la salat entre mes yeux comme la merveilleuse, la plus merveilleuse chose. Naam, la salat. Remercie beaucoup Allah Ta'ala qu'il t'a aidé, que tu es du genre que tu fais la salat à l'heure. Naam, à chaque fois que tu entends le mot adhan, adhan, et tu fais la salat après l'adhan, un quart d'heure, une demi-heure, ça ne fait rien. Quand tu termines, dis Alhamdulillah, Ya Allah, tu m'as aidé et j'ai fait la prière à l'heure. C'est pour ça que chaque jour, le soir, avant de dormir, fais un petit bilan. Les gens font beaucoup de bilans. Attention, aujourd'hui, combien j'ai dépensé, combien j'ai à la banque, 500 euros, 600, 700, et ceci, cela, 800, 900, Alhamdulillah, je vais être millionnaire, milliardaire. Et toi, ne fais pas ces calculs. Toi, dis, aujourd'hui, combien de prières ai-je fait à l'heure? Ah, j'ai fait des 5 prières à l'heure. C'est que Allah Ta'ala m'a aimé. Allah Ta'ala m'a aidé. Allah Ta'ala m'a voulu du bien. Allah Ta'ala me veut du bien. Ya Allah, je te remercie beaucoup. Ya Allah, ajoute-moi de cette faveur. Ya Allah. Et comme ça, tu remercies Allah Ta'ala qui t'a aidé. Tu as fait des 5 prières à l'heure. Alors, si tu as ajouté des nawafil, si tu as ajouté des ratiba, ça veut dire que khlas. Et alhamdulillah, si tu meurs comme ça, masha'Allah alayk, masha'Allah alayk. Mais si tu fais les calculs et tu trouves qu'il y a une salat ou deux salats qui n'ont pas été faites à l'heure, quand je dis pas à l'heure, ça veut dire que l'autre salat est rentré. Ça veut dire que tu n'as pas fait salat al-asr jusqu'à ce que tu aies entendu le adhan du maghrib. Ou là tu n'as pas fait le maghrib jusqu'à ce que tu aies entendu l'isha. Ou là tu n'as pas fait l'isha jusqu'à salat sobh, ou pardon, salat sobh c'est beaucoup, jusqu'à la moitié de la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire le grand repentir et pleurer beaucoup et faire sortir une somme d'argent fi sabilillah, ou bien jeûner quelques jours fi sabilillah et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne d'avoir fait ce grand péché. Naam, quand on a la foi faible, ça va te paraître tu n'as rien fait. Non, c'est comme les gens qui ont la foi faible, ils font de grands péchés, et comme disaient les salafs, pour eux, c'est comme s'ils avaient chassé une mouche qui s'était posée sur leur nez. C'est difficile pour toi de chasser une mouche qui s'est posée sur ton nez, tu fais seulement comme ça avec ta main, elle part. Pour eux, c'est comme ça la salade. C'est pas quelque chose de grave. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai tué quelqu'un? J'ai bu de l'alcool? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé dehors, je pleurais dehors la nuit. C'est pas grave, Inch'Allah. C'est pas grave. Non. C'est bon. Non. Et plus tu as de la foi, d'ailleurs, ça c'est un mizan, c'est un signe, c'est un balance pour peser quoi? Pour peser ta foi. Si elle est bonne, Inch'Allah, ancrée dans le cœur, ou elle est faible. Qu'est-ce que tu dois voir? Regarde, quand tu fais le péché. Non. Plus ta foi est, masha'Allah, ancrée dans le cœur, plus, même si c'est un petit péché, tu sens que c'est un grand péché. Et tu commences à astaghfirullah, et à avoir peur, et à demander aux ulama, et à ceci. Ça, c'est le délit de quoi? Masha'Allah. Que ton iman est, masha'Allah. Si ton iman est faible, la foi est faible, tu fais les plus grands péchés du monde, et tu dis, je n'ai rien fait. Tout le monde maintenant voit de l'alcool. Qu'est-ce que je peux rien faire, tout le monde fait ceci. Tout le monde voit les films. Tout le monde voit les films de haram. Les films de sale. Les films sales. Astaghfirullah, les films sales. Où l'homme voit des choses. Et des fois il voit avec sa femme ou l'ayadu billah. Non, il voit des choses vraiment, vraiment haram. Et te dit, moi je peux rien faire. La ghalb, c'est tout le monde voit ces choses. Tout le monde voit ces choses. Allah Ta'ala il t'a dit de voir ou de baisser les yeux. Allah Ta'ala t'a dit de baisser les yeux ou là de voir ces choses. Tu vois tout le monde, la plupart vont aller au Jahannam. Toi tu veux sauver ta peau. Tu ne suis pas le monde. Non. Allah Ta'ala a dit si tu suis la plupart qui sont sur terre, ils vont t'égarer. Toi tu ne suis pas le nombre. Tu suis un sunnah ou le jama'a. Tu suis ce que Allah veut de toi et ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Tu ne dis pas, tout le monde fait ceci, donc je fais cette chose. Ah là là, c'est pas comme ça. Quand tu as une religion, quand tu ne suis pas ta passion, tu as une sharia, tu as la législation, tu as le Coran et la Sunna et celle de Salah. Tu diffères des gens, toi. Tu n'es pas comme eux. نعم استغفر الله كيف شفتي فيها. نعم je termine avec cette chose, je termine avec cette chose inshallah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait فَإِذَا صَلَّيْتُمْ نعم non, c'est pas ça. Il a dit وَنَهَا sallallahu alayhi wa sallam عَنْ ثَلَاثِ عَنْ نُقَرَةٍ نُقَرَةٍ كَنُقَرَةِ الدِّيكِ وَإِقَاعٍ كَإِقَاعِ الْكَلْبِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ هو أحمد وأبو يعلى أبو يعلى هو في صحيح الترغيب. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit qu'on fasse dans la salat comme trois animaux. Quels sont ces animaux? Naam. Il a interdit les coups de bec, comme les coups de bec du coq. Dans un autre hadith, le ghorab, l'aigle. Le ghorab, pardon, le corbeau. Naam. Le coq, si tu vas lui jeter un peu de blé ou là, un peu d'orge ou là, comment qu'il va faire? Il va picorer. Tac, 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 tac. Naam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit qu'on picore, qu'on donne des coups de bec comme dans le coq. Ça veut dire que quand tu fais la prosternation, tu attends un peu, tu dis Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, au moins. Ensuite tu t'assois. Tu dis Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, ou bien Rabbi khfirli, wa rahmni, wa hdini, wa afini. Naam. Ensuite tu te prosternes la deuxième fois. C'est pas tu joins ça à ça. Il y a pas de tu ne fais pas de pause. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça ce n'est pas une salat. Ça, au lieu d'avoir les hasanat et les récompenses, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des péchés. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un faire la salat comme je viens de dire maintenant, il a dit celui-là, s'il était mort, il ne serait pas dans le chemin de l'islam. Cette personne, si elle était morte, elle ne serait pas morte sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il picorait dans la salat, il allait très vite. Et il a vu quelqu'un faire la prière, il allait aussi très vite, il lui a dit « Irja, minna kalam tu salli ». Il l'a appelé et ensuite il lui a dit « Reviens, refais ta salat ». Tu n'as pas fait la salat. Alors que l'homme avait fait la salat. Il lui a dit non, tu n'as pas fait la salat. Ensuite, il a fait la deuxième fois la même chose. Il lui a dit écoute, il a appelé ensuite, dit refais la salat, tu ne l'as pas faite. Troisième fois, refais la salat, tu ne l'as pas faite. Trois fois, naam, pourquoi? Ce n'est pas celle-là la salat que Allah Ta'ala a demandé. C'est une autre salat que tu as inventé toi. Naam, tu as inventé une salat. Ce n'est pas la salat d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous a demandé de faire. Voyez, donc, trois animaux, on ne peut pas, il est interdit de le ressembler. Ressembler au coq qui donne des coups. C'est-à-dire, nous, quand on donne des coups dans la prosternation, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, on a donné des coups de coq. C'est interdit. Deuxièmement, d'étaler les avant-bras à terre pendant la prosternation, comme le chien. Naam, comme le chien. Certaines personnes, quand elles font la prosternation, vous savez, quand on fait la prosternation, on ne doit poser que quoi? Que les paumes, les paumes. On doit poser seulement les mains. Les mains, c'est-à-dire les paumes des mains. Certaines personnes, elles posent aussi quoi? Elles posent le poignet. Le poignet, et elles posent l'avant-bras. On a ressemblé à qui? On a ressemblé au chien. Le chien, quand il est assis en face de nous, il pose les avant-bras ou là, il pose les paumes? Il pose tous les bras. Non. Ils posent le bras et l'avant-bras. Donc certaines personnes, quand elles font la prière, qu'est-ce qu'elles font? Elles posent les avant-bras. Quand tu poses les avant-bras, tu t'es fait ressembler au chien, a dit le prophète sur l'ensemble, et c'est interdit. Il faut que tu poses seulement tes mains et que tes avant-bras soient levés et que tes aisselles soient levées de façon à, si un chat par exemple voulait passer entre toi et tes bras, il aurait pu. Naam. Quand tu poses tes mains, tes avant-bras sont assez levés, si un petit chat voulait passer, il pouvait passer. Naam. Entre toi et tes mains, mashallah, qui sont levées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait les mains au point où on voyait la blancheur de ses aisselles. La blancheur de ses aisselles, comme a dit le sahabi Jalil, blancheur de ses esprits, sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, au point où les sahaba, yani, c'est pas le plaigné, comment on dit, yani, mushkikun alayh, yani, il disait à Rasulullah, tu nous fais, comment on dit avec le mot, yani, toi tu nous fais mal, c'est pas, on voit par exemple quelqu'un qui nous fait de la peine, naam, qui nous fait de la peine, on dit, subhanallah. Mais là, il nous fait, le professeur nous fait de la peine tellement il lève comme ça ses bras, alors que d'autres, comme je dis, qu'est-ce qu'il faisait, il pose comme ça, yani, tous les bras par terre. Tout cela, bien sûr, est interdit. Et la troisième personne à laquelle on ne doit pas ressembler, c'est qui? C'est, il a dit, et de regarder autour de soi comme le renard. C'est le renard qui regarde comme ça, à gauche, à droite. C'est le renard qui regarde comme ça. Donc nous aussi, on ne doit pas regarder comme regarde le renard. C'est interdit dans la salat. Non. Regarder comme regarde le renard. Une seconde. Avec la salle. Une seconde. Non. Je disais, il y a trois animaux auxquels on ne devait pas ressembler. Le coq qui picore, et le chien qui étale ses bras, et le renard qui regarde à droite et à gauche. Et le renard qui regarde à droite et à gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن فإن كنت لا تراه فإنه يراك. Le prophète Islam nous donnait un conseil. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, prie la prière de celui qui dit à Dieu comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu le vois pas, lui sûrement il te voit. Naam, lui sûrement il te voit. Mais certaines personnes n'ont pas bien compris ce hadith. Certaines personnes, quand ils disent par exemple qu'ils font l'aïkama, l'imam, il fait l'aïkama, bon, quelqu'un fait l'aïkama, ensuite l'imam, qu'est-ce qu'il commence à dire? Par exemple, il dit stéo. Ensuite il dit, salli salata muwaddi'a. Sallu salata muwaddi'a. Il croit que ça se prend, il a pris ça de ce hadith. Alors ce n'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, après l'iqama et avant de dire Allahu Akbar, il n'a jamais dit aux gens par exemple sallu salata muwaddi', comme disent maintenant certains imams. Mais il a dit ça en apprenant les gens, en leur apprenant comment faire la salat. Il a dit, quand tu fais la salat, fais-la comme quelqu'un qui dit à Dieu. Mais il n'a pas dit, on doit dire aux gens de la sunna, on leur dit, écoutez, faites la salat et yani salat muwaddi'. Non, certains gens donc se trompent, certains imams, quand ils, avant de commencer la prière, ils disent sallu salata muwaddi'. D'où tu as ça? Le prophète Hassan ne disait pas ça. Il te dit, il y a le hadith qui dit ça. Non, le hadith ne l'a pas dit comme ça, il était en train d'apprendre aux gens. C'était pas pendant l'iqama. Comme ça, ils étaient assis ou là en train de leur apprendre la prière. Il leur a dit, quand vous faites la prière comme quelqu'un qui dit à Dieu. Ça veut dire, c'est là, avec des khushu', etc. Naam. Il reste quelque chose, mais je préfère m'arrêter ici, inshallah ta'ala. Je m'arrête ici, inshallah ta'ala. Je termine parce qu'il reste 2 ou 3 hadiths. Comme ça, la prochaine fois, je commence direct, inshallah ta'ala, un nouveau chapitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله ما شاء الله ما شاء الله. هذا حديث صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toute personne qui, lors d'une prière obligatoire, elle fait bien ses ablutions, son humilité, khushu' dans la salat, inclination dans la salat, s'il fait bien, je dis, s'il fait bien les ablutions, il fait prière avec humilité, khushu, il termine bien son inclination, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, cette salat lui sera une rémission de ses péchés. Subhanallah al-Azim. Cette salat va être une expiation pour tes péchés. Les péchés précédents, tant que tu n'as pas commis de péché capital. Et cela est valable pour tout le temps. Subhanallah al-Azim. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Subhanallah al-Azim. Là, quelqu'un, avec tentation comme ça, avec tentation, c'est a sauté sur une femme et l'a embrassé. Ensuite, il a allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la sincérité. Quand il a embrassé la femme, personne ne l'a vu. Il pouvait cracher et ne rien dire. Mais il a reconnu. Il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, il est dans Abu Daoud. Cheikh Al-Albani a dit sahih. Il a dit, ya Rasulallah, j'ai pas pu me retenir, j'ai embrassé une femme. Pas pu me retenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as fait la prière avec nous maintenant? Il a dit, naam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa akhim salat, inna al-hasanat yudhib nasiyat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que le pardon, il lui a dit que la prière, quand tu l'as faite maintenant avec nous, elle t'a annulé bi'idhnillah azza wa jal, elle t'a annulé les péchés que tu avais fait. Le péché bien sûr ici c'était quoi? C'était par exemple le fait d'embrasser cette femme. Car Allah azza wa jal a dit dans le Coran, wa akhim salat tarafi innahar وزلفا من ليله ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Qu'est-ce qu'il a dit auparavant? واقم الصلاه طرف النهار وزلفا من ليله. Donc celui-là qui venait d'embrasser cette femme, le fait inshallah ta'ala que il ait fait la prière ici obligatoire, Allah ta'ala lui a annulé ce péché. Donc bien sûr ça ne veut pas dire que inshallah ta'ala quelqu'un va dire donc alhamdulillah maintenant j'ai une excuse. J'ai une excuse, jamais je vais embrasser, ensuite je vais faire la prière. Ça, c'est pour quelqu'un, bien sûr, qui ne savait pas, quelqu'un tentation. Là, la prise, il n'a pas pu se retenir. Allah Ta'ala lui a pardonné à cause d'avoir fait la prière à l'heure avec Salat al-Jama'a. Mais ce n'est pas pour quelqu'un qui sait et qui va d'avance dire je vais faire le péché et je vais faire la prière ensuite. Et il va me pardonner. Non, ce n'est pas comme ça. Bi'idhnillah azza wa jalla. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis pour terminer, il a dit une fois, il a dit idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jam wa atuni bi anbijaniyati Abi Jam fa inna alhatni anisan an salati wa fi riwaya fa inni nadartu ila amaliha fi salat fa kada yuftinuni. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié une fois, il a prié dans une khamisa. Khamisa, c'est quoi? C'est un vêtement de laine ayant des marques, comme ça, des rayures. Il a fait la prière dans un vêtement avec de la laine qui avait des rayures, des marques. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a terminé sa salat, il a dit, prenez cette khamisa, prenez ce vêtement qui m'appartient et allez chez Abu Jahl. Un compagnon, allez chez Abu Jam et rapportez-moi son imbijaniya, rapportez-moi son vêtement qui n'a pas de marque, rapportez-moi le vêtement de Abu Jam. Abu Jam, ce n'est pas Abu Jahl, car son vêtement n'a pas de marque, car il a dit le vêtement avec lequel je viens de faire de la prière a des marques, il a détourné mon attention de la prière. Et dans une autre narration, j'ai regardé ces marques lors de la prière, et de peu, elle m'est troublée. C'est-à-dire que il a été attiré par les marques dans la salat. Il faisait la salat tout en regardant les marques qu'il y avait dans l'habit, les marques et les rayures. Ensuite, il a déclaré, je ne veux plus faire la prière sur cet habit. Prenez-le et ramenez-moi l'habit de Abu Jahl. Il a un habit qui n'a pas de marque. Et dans un autre hadith, aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, akhirihi anni, fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'radu li fi salat. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il avait fait la prière en face d'un tissu de Aïcha. Ce tissu avait des images étendues. Non. Il a fait la prière en face du tissu. Quand il a terminé, qu'est-ce qu'il a dit? Éloigne, il a parlé à Aïcha, il lui a dit, éloigne de moi ce tissu, parce que ces images n'ont pas cessé de me déranger dans ma prière. Non. C'est pour ça que je dis, et je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait la prière, on ne la fait pas en face de quelque chose qui nous attire. On ne fait pas la prière, par exemple, en face d'un beau cadre. On va tout le temps voir qu'est-ce qu'il y a dans le cadre tout en faisant la prière. Ou là, en face de quelque chose, il y en a vraiment coloré. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de colorer nos mosquées, etc. Il a dit إذا حليتم مصاحفكم و يقول كي غادي زوقتم سي جني بو بلي مساجدكم قد دمروا عليكم. نعم il a fait un dua contre nous. نعم il a dit si vous allez embellir comme ça vos mosquées et leur donner des couleurs etc et vous allez embellir le Coran, lui mettre de l'argent tout autour, lui mettre de l'or tout autour, Allah Azza wa Jal, il va vous anéantir. Vous allez être anéanti. Pourquoi, Naam? Pourquoi? Parce que la mosquée n'a pas été bâtie, ce n'est pas un musée. C'est un endroit où on va adorer Allah Ta'ala. Plus la mosquée est simple, plus ta prière, Inch'Allah Ta'ala, va contenir du khushu et de l'humilité. Naam. Quand tu es dans une mosquée simple, simple, tu vas sentir de l'humilité, Wallah. Surtout si la mosquée, yani, quand il y a du zinc, par exemple, au-dessus de ta tête, la mosquée contient de la terre, tu vas sentir d'humilité. Mais si c'est une mosquée, yani, extra, masha'Allah, yani, toute option, à cela, tu ne vas rien sentir comme khushu. Tu vas voir à gauche, voir à droite, voir les choses qui brillent, et tu vas oublier ta salat. La même chose, le Coran. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'a pas descendu pour que le remplir d'or et d'argent. Il a descendu pour être appliqué. Allah Ta'ala a fait descendre sa parole pour qu'on l'applique. Ce n'est pas comme certains gens ou certaines personnes ou certaines personnalités ou certaines riches. Tu rentres chez eux dans leur bureau, tu trouves derrière eux un Coran, masha'Allah, tout couvert d'or. Un Coran qui coûte, je ne sais pas, des milliers d'euros. Alors que il n'applique rien de ce Coran. Allah Ta'ala n'a pas fait descendre le Coran pour le mettre shbah, pour embellir nos maisons. On va embellir, masha'Allah, chez certains gens, tu rentres dans le salon, masha'Allah, il y a le Coran là, il est posé là, couvert d'argent, masha'Allah. Mais l'homme lui-même ne porte pas la barbe. Et je ne sais pas si c'est la prière à l'heure. Et la femme ne porte pas le djilbab. Quand elle sort dans la rue, elle sort avec cheveux découverts. À quoi ça a servi ce Coran? Ce Coran, donc, va être contre toi le jour du jugement dernier. Il va être contre toi. Il va dire à Allah, j'ai existé dans leur maison, mais il ne m'appliquait pas. Naam. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La salata bi hadrati ta'am, wa la wa huwa yudafi'u al-akhbathan. » Hadith sahih, Bukhari ou Muslim. Ça dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de prière quand le repas est servi, et pas de prière pour celui qui repousse les deux impuretés. Naam. Pas de prière si le repas est servi, et pas de prière pour quelqu'un qui repousse les deux impuretés. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose? Ça veut dire que si c'est l'heure du manger et c'est l'heure de la prière, je commence avec le manger, ensuite je termine mon manger et je fais la prière. Non. Surtout si j'ai vraiment faim et que je suis très attiré par ce manger, je ne peux pas, je dis bien, c'est pas toi qui choisis. Allah Ta'ala, subhanallah al-azim, quand il te donne la permission, il faut prendre la permission. Maintenant, c'est lui qui t'a dit il n'y a pas de prière. Je n'accepte pas ta prière si tu laisses le manger et tu vas faire la prière. Et tu sais que tu as très faim. Et Allah Ta'ala dit, je n'accepte. Il n'y a pas de prière. La salat. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'essentiel dans la prière, c'est pas le corps, c'est le cœur, comme je venais de dire. Allah Ta'ala veut ton cœur dans la prière. Veut que tu l'invoques, etc. Maintenant, si tu vas yani dans cet état de faire la prière, tu vas pas invoquer Allah, tu vas invoquer le manger. Wallah, tu vas invoquer le manger. Tu vas dire Allahu Akbar et tu vas penser. Est-ce qu'ils ont mangé ma part ou ils ne m'ont pas mangé? Est-ce que la viande, la grosse part, elle est de mon côté ou là du côté de l'autre? Est-ce qu'ils ont commencé ou là ils ont fini? Est-ce qu'ils m'ont laissé un peu de pain ou ils m'ont pas? Est-ce qu'ils ont terminé le dessert ou là, ils m'ont pas laissé? Et comme ça, il ne va plus y avoir de salat. Tu vas invoquer le manger au lieu d'invoquer Allah Ta'ala. C'est pour ça que les ulama, on dit quoi? On dit, Masha'Allah, regardez cette sagesse, cette chikma. On a dit, ils ont dit, Tamla'u batnaka li tufarrighu qalbak. Allahu Akbar. Pourquoi tu manges avant la prière? Tu remplis ton ventre pour vider ton cœur, subhanallah al-azim, na'am, remplis ton ventre, comme ça, khlas, ton cœur est libre. Maintenant, si tu ne vas pas manger, ton cœur est quoi? Subhanallah al-azim, est emprisonné. Ton cœur est emprisonné dans ton ventre. Il ne pense qu'au manger. Donc mange, masha'Allah, et ensuite, fais la prière. Et la même chose, a dit le prophète, alayhi sallam, pour quelqu'un qui veut aller aux toilettes. Quelqu'un qui veut aller aux toilettes. Et c'est l'heure de la prière. Il commence par quoi? Il commence par les toilettes. Naam. Sauf si c'est quelque chose, si je puis dire quelque chose de léger. Naam. C'est quelque chose que je peux retenir, c'est léger. Mais si c'est quelque chose au point que yani, ça te presse, tu ne peux pas faire la salat. C'est interdit. Si tu l'as fait, elle n'est pas acceptée. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a dit, c'est pas seulement Cheikh Ibn Uthaymeen. Le Muhaqqiqoun en dit, si tu es dans la salat, là tu as commencé. Ensuite, ton ventre commence à te faire mal pour aller aux toilettes, ou la l'urine commence à te faire mal pour aller aux toilettes, tu dois t'arrêter de la salat et aller aux toilettes. Naam, en plein salat, tu quittes. Dis salamu alaikum, et tu sors, tu vas à la maison, et tu vas aux toilettes. Et ensuite, tu fais la prière seul. Naam, regardez, pourquoi? Parce que Allah Ta'ala veut ton cœur. Ah, maintenant, si tu vas aller aux toilettes, tu ne peux pas faire la prière. Comment faire la prière? En train de te serrer. Tu te serres comme ça et tu as mal et tu commences à dire dans ton cœur, Ya Rabbi, quand est-ce que se termine ça, cette salat? Oh, cet imam, il lit beaucoup. Ya Rabbi, quand est-ce qu'il s'arrête? Quand est-ce qu'il s'incline? Ça, c'est une salat? C'est pas une salat. La salat, c'est que tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la. Tu sens yani, ton cœur qui s'ouvre. Tu sens la larme qui veut couler de tes yeux. Ça, c'est la salat. Tu invoques Allah, Ya Allah. Est-ce que tu lui demandes des choses? Ya Allah, je suis malade, guéris-moi. Ya Allah, j'ai des problèmes, aide-moi. Ya Allah, je ne me suis pas marié, aide-moi. Et comme ça. Et la salat, tu es en train de crisper. Tu es en train de... La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Regardez la hikma de l'islam. Les ulama ont dit, pour le manger, je reviens, j'ai oublié une chose. Pour le manger, ils ont dit, quand le repas est prêt et la prière arrive, tu commences par le repas. Et tu laisses la prière. Ils ont dit sauf le imam. Le imam, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la prière, il va à la mosquée. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, parce qu'il y a les gens qui l'attendent. Lui, il doit aller à la prière, il y a des gens qui l'attendent. Sinon, il va faire une fitna dans la mosquée. N'importe qui va prier, etc. Et deuxièmement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le hadith du Bukhari, ils étaient en train de manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup l'épaule, comme vous savez. Et il a entendu quoi? Il a entendu l'iqama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qamat salat, qad qamat salat. Il a jeté le couteau, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qasikim. Il a jeté le couteau et il est allé faire la prière. Ibn Hajar al-Asqalani a dit, voilà un délit que l'imam est une exception. L'imam doit aller car les gens l'attendent, etc. Et quand il a dit, il a jeté le couteau, voilà un délit que on peut manger avec le couteau et la fourchette et la cuillère. Pour ceux qui disent que on doit manger seulement avec la main, se trompe beaucoup. Si le prophète s'assemble à manger avec sa main, ça ne veut pas dire que toi tu es obligé de manger avec ta main, ou là que si tu manges avec la fourchette ou là la cuillère, tu as fait une bida, comme disent certains, les tablir, etc. Si tu manges avec la cuillère, c'est une bida. Tu manges avec le couteau, c'est une bida. Le prophète s'assemble à manger avec un couteau. Pourquoi c'est une bida? Non. Pourquoi tu montes dans la voiture? Alors le prophète s'assemble n'est pas monté sur la voiture. Il faut que tu vendes ta Mercedes et que tu achètes un chameau. Naam, demain, Inch'Allah, tu vas vendre ta Mercedes et tu vas acheter un chameau et tu vas aller sur le chameau au travail et sur le chameau tu vas aller à la mosquée. Non. Tu gardes le chameau, tu le gardes devant la mosquée, hein, tu payes je ne sais pas combien, là-bas tu le laisses, et peut-être même il y a quelqu'un qui veut le laver comme on lave la voiture, tu le payes, et il te garde le chameau, et tu viens ensuite avec le chameau à la maison. Non, si tu veux appliquer la sunna, entre parenthèses la fausse sunna. J'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, je répondrai à vos questions dans une, au moins 20 minutes à une demi-heure. Parce qu'entre parenthèses, je n'ai pas encore mangé, ni à midi, ni le soir. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 20 minutes à peu près. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa barakatuhu. Na'am.